aime l'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, pas d'invité en studio, on va plutôt vous proposer un petit retour en arrière parce que d'ici quelques jours, c'est la fête de la radio. Et parce que nous avons la chance de vivre chaque année à Brest un formidable festival consacré à notre média, mais aussi plus largement au son, à l'écoute, à l'audio. Longueur d'onde et sa web radio Oufipo ont aussi des activités toute l'année, on vous en parle régulièrement. Mais aujourd'hui donc, on retourne en début d'année, au cœur du festival 2022 qui avait lieu du 26 au 30 janvier, un peu partout dans Brest, car le Quartz est en travaux, vous le savez. Lors de cette 18e édition, Jean Causeur a rencontré plusieurs acteurs du monde de la radio et du son. On va commencer donc par la source. Faire de la radio, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Par exemple, pour être animatrice et animateur, il existe une formation, elle a été créée par Sylvain Delfaux.
J'ai monté il y a quelques années un centre de formation qui s'appelle la Skol Radio, qui est lié avec un radio laser, qui forme donc des animateurs, des animatrices radio qui aujourd'hui travaillent ou en radio associative pour à peu près un tiers. Il y a à peu près 40% qui travaillent sur France Bleu et le reste en radio commerciale.
Où est-ce que ça se trouve en Bretagne ? Parce qu'on se doute que c'est en Bretagne, vu le nom.
Oui, Skol Radio, l'école de la radio, entre guillemets, en breton. On est situé dans le département de l'Ille-et-Vilaine. On est donc au sud de Rennes, à Guichen exactement. On a toujours voulu être présent en fait en Bretagne. C'était l'idée, moi, quand j'ai monté cette école, quand j'ai eu l'idée vers 2005-2006... Je me disais que c'est dingue qu'on n'avait pas un truc comme ça en Bretagne, qu'il fallait aller à Paris ou sinon et payer. Et donc nous, on voulait quelque chose d'accessible pour les demandeurs et demandeuses d'emploi ou les gens qui n'ont pas les moyens de se payer d'école. Et puis on voulait rester en Bretagne. Et donc c'est pour ça que la région Bretagne nous fait confiance depuis maintenant plus de 8 ans et qu'on est installé à Guichen.
Est-ce que le succès est au rendez-vous ? Vous avez combien d'élèves par année ?
Alors, on prend que 12 élèves, 12 stagiaires. Parce que on trouve que c'est le bon niveau déjà pour former et puis ensuite pour trouver du boulot. Parce que l'idée d'une école, c'est que quand ils arrêtent, c'est-à-dire qu'une fois que le dernier jour est passé, ils sont tous sur le marché du travail, toutes et tous. Donc si tu formes 40 personnes alors qu'il n'y a pas 40 emplois au moment où ils sortent, ça serait débile. Donc nous, on se dit 12 stagiaires par an, c'est faisable pour arriver sur le marché du travail et surtout c'est des classes de 12 personnes, c'est bien parce qu'après plus de 12 ça voudrait dire faut faire des groupes et tout, donc c'est un peu plus compliqué en termes de pédagogie, donc 12 c'est vraiment le bon chiffre.
Et quels sont vos critères de sélection ? Parce que je suppose qu'il n'y a pas 12 personnes qui se présentent chaque année.
Oui, voilà, c'est ça. Quand vous parlez de succès, oui, il y a beaucoup de gens qui sollicitent, on est à peu près une centaine de personnes, donc les... par an à peu près qui candidatent. Les critères, il faut être demandeur ou demandeuse d'emploi ou inscrit si on a plus de 26 ans, mais pas forcément inscrit si on a moins de 26 ans. On n'est pas obligé d'avoir fait de la radio avant en fait. C'est pas une obligation. Mais c'est toujours mieux, on va dire qu'on a 80% des gens qu'on a testé la radio ou en service civique ou en bénévole. On a beaucoup d'anciens services civiques, beaucoup de bénévoles, d'anciens bénévoles qui, à un moment donné, se disent « je veux faire ce métier, en fait », et donc veulent se professionnaliser parce que service civique, c'est pas un boulot. Donc, normalement, on doit pas bosser pour la radio. On a une mission qui est sur une thématique bien précise, donc on va pas toucher à tout. Et donc, on manque de certaines compétences. On a besoin de se professionnaliser. Et donc, nous, on intervient à ce moment-là. On a 6 mois de formation en centre où on va former des gens. Voilà, les critères, c'est ça. C'est avoir envie, connaître la radio, avoir envie de faire de la radio, être curieux. Enfin, voilà, on rencontre les gens, on discute, on fait un test de culture populaire et générale. Donc, c'est plein de critères, en fait. C'est vraiment plein de critères. Mais j'ai des gens qui ont fait la Skol, qui n'avaient jamais fait de radio avant. Et à un moment donné, y avait cette envie. Nous, on sentait l'envie de faire de la radio et les capacités de le faire et donc aujourd'hui sont animateurs ou animatrices radio.
Et donc pour les former, quelle pédagogie, quelle méthode utilisez-vous ?
Alors on est sur des méthodes pour la formation plutôt active, c'est-à-dire qu'on les fait faire beaucoup. On a un plateau technique, ils font beaucoup de radio, on leur prête du matériel dès le début, ils ont un zoom, un micro, des bonnettes, enfin voilà, ils sont sur le terrain rapidement. On n'a que des formateurs et formatrices professionnels du monde de la radio. Et donc ils font beaucoup de radio, ils font beaucoup de toutes les techniques radio. Ils ont les mains dans le cambouis. Nous, on met les mains dans le cambouis et on y va, quoi. Faut bosser, faut faire de la radio. Ils se trompent, on redit comment faut faire. On travaille, on débrief. On a bien sûr des cours un peu théoriques, mais ils sont très très peu. Puis on a des méthodes inversées, c'est-à-dire pédagogie inversée ou de classe inversée, où on va leur donner des trucs à faire puis on va les corriger après. Donc c'est pas du tout l'école en fait. C'est les gens souvent ils nous disent waouh putain c'est fou quoi, je vois pas le temps passer, les 6 mois passent vite, et ils s'en rendent pas compte en fait. Oh, on est déjà en fin de journée, alors qu'à l'école au bout de à 10h et à 10h30 quand il y avait la récré entre guillemets, ils avaient qu'une envie, c'est aller jouer avec les potes. Donc c'est plutôt valorisant pour nous parce qu'on sait qu'on est sur la bonne méthode, et pour eux parce qu'en fait ils s'en rendent pas compte, mais ils travaillent beaucoup, mais ils apprennent beaucoup, mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup de jeux, on fait beaucoup de jeux aussi. Là ça, les neurosciences dans les dernières années ont apporté ça à la formation, c'est-à-dire que l'être humain apprend beaucoup plus quand il joue. Qu'il soit enfant, mais qu'il soit adulte, c'est pareil pour les adultes en fait. Et donc on les fait beaucoup jouer sur des jeux liés à la radio ou pas, et en fait ils progressent comme ça, quoi.
Vous nous avez parlé un peu en début de cette interview des profils des personnes qui rentrent chez vous, mais aussi qui par où ils se dirigent en sortant. Est-ce qu'il y a eu une évolution de ces profils ces dernières années, notamment à cause du Covid? Je ne sais pas s'il y a eu un impact sur vos formations.
Alors, est-ce que le Covid a impacté je pense que j'ai pas l'impression que dans les profils il y a eu un impact. Ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'il y a eu beaucoup de remises en question, et peut-être qu'on va avoir des gens qui se disent au bout d'un moment, bah, en fait, moi je voulais être animateur ou animatrice radio. J'ai mis ça de côté, et puis parce qu'il y a beaucoup de remises en question au Covid, là on voit qu'il y a beaucoup de démissions dans plein de domaines, et peut-être que des gens qui voulaient faire de la radio avaient mis ça de côté à cause de ou les parents ou la famille ou l'école ou Pôle emploi qui dit il n'y a pas de boulot, et ben se disent bah en fait c'est ce que je veux faire, je préfère gagner ma vie avec la radio plutôt que de gagner peut-être plus ailleurs, mais où je m'éclate pas, où je suis triste dans la vie, quoi. Mais pour l'instant je peux pas dire qu'il y a eu un changement radical par rapport à ça.
Donc généralement ce sont plus donc des personnes jeunes qui après avoir eu juste un rêve qu'on n'oserait pas trop toucher d'être animateur radio ou travailler dans la radio, ont décidé de franchir le pas et de s'informer et de se former finalement, c'est ça?
Ouais, alors on a dans notre public qui fait la Scola Radio pas que des jeunes, on a on va dire 80% peut-être de jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. Qui sont sortis de l'école, qui ont fait un an ou deux trucs, et puis qui sont au chômage parce qu'ils n'ont pas trouvé, puis, ou qui ont raté leur concours, et puis ils veulent devenir animateur, animatrice radio parce que c'était leur rêve. Mais on a aussi des gens de 40 ans qui après un burn-out, après un truc parce qu'ils n'étaient pas heureux dans leur vie, ou ils se remettent en question parce que la vie c'est comme ça, il y a des remises en question des fois, se disent mais le petit truc dans mon ventre que j'ai, la petite boule que j'ai, c'était parce que j'ai pas réalisé mon rêve, et mon rêve c'était d'être animatrice radio ou animateur radio, et ben je vais le faire, quoi. Et nous on forme des gens qui ont ce parcours là et c'est génial, parce que moi je trouve ça génial, des gens, moi j'ai eu des cadres sup qui gagnaient je sais pas combien, ils reviennent à des salaires au-dessus du SMIC, quoi, mais en fait ils sont largement plus heureux. Ah, c'est génial, quoi. Enfin, voilà, nous on est heureux et on est content parce qu'on sait que grâce à nous il y a des gens qui sont heureux dans leur vie, quoi.
Oui, c'est vrai, la radio, ça rend heureux, je vous le confirme. Scolradio.fr pour en savoir davantage sur cette formation à l'animation radio en Bretagne, qui aura aussi son stand au Paris Radio Show les 2 et 3 juin, donc jeudi et vendredi, pour présenter ses formations courtes. La radio, c'est aussi un formidable outil pour permettre à des publics en difficulté ou en marge de s'exprimer et de se réinsérer. Là, c'est l'idée qu'a eue l'association Making Waves, représentée ici au festival Longueur d'onde de Brest en janvier, par Hervé Marchon, toujours au micro de Jean Causeur.
Making Waves, c'est une association qui crée des radios partout et pour tous. Making Waves, c'est une troupe de radio. On crée des radios comme on crée des pièces de théâtre. On crée des radios partout et pour tous. On crée des radios dans des camps de réfugiés. On crée des radios dans la rue pour des SDF. On crée des radios dans des écoles. On crée des radios dans des centres sociaux, dans des hôpitaux, dans des quartiers, dans des immeubles. On crée des radios comme autant d'espaces de rencontres, de dialogues entre tous ceux qui viennent participer aux émissions auxquelles ils contribuent.
Et ça, tout ça, dans toute la France ou simplement dans une région ciblée ?
Dans toute la France et en Afrique de l'Ouest.
Et donc, j'ai appris que Making Waves faisait aussi de la réinsertion professionnelle ou sociale. Comment, par le métier du son, on peut aider les gens à se réinsérer socialement ou professionnellement ?
Par un truc très simple, quand on a un micro à la main, un casque sur les oreilles et un enregistreur, on devient tout d'un coup très intrigant pour tous ceux qui sont autour de vous. Et donc, les gens viennent vous voir et vous dites « vous faites quoi ?» et ils s'intéressent à vous. Donc, pour des gens qui n'ont pas travaillé depuis des années ou des gens qui n'ont jamais travaillé, et c'est à eux que s'adresse notre dispositif d'insertion socio-professionnelle, ça devient vachement important et ça devient très intéressant de faire de la radio. Rien que ça, c'est vachement intéressant. Autre chose, dire à quelqu'un « je fais de la radio », quand quelqu'un vous demande, vous savez, dans une soirée « qu'est-ce que tu fais, toi ?» bon, tu lui dis « moi, je suis manutentionnaire », bon, c'est pas forcément très valorisant. Par contre, c'est ultra valorisant quand il dit « je fais de la radio ». Et là, tout d'un coup, il dit « ah ouais, tu fais de la radio, mais tu fais quoi de la radio? Mais comment ça se passe? Mais tu fais où la radio? Et qu'est-ce que tu racontes? Tu fais des émissions? Et elle dure combien de temps tes émissions? Et c'est quoi? C'est de la musique? Et t'interviews des gens et tout ?» Et donc, tout d'un coup, on a plein de questions. Et donc, les gens qui font de la radio avec nous, qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, qui ont des problèmes sociaux, des problèmes professionnels ou qui n'ont jamais travaillé, et bien tout d'un coup, ils ont un autre rôle dans l'espace social et politique. Et ils s'aperçoivent qu'ils sont importants. Et ce qui est vrai pour tout le monde. Mais la radio leur permet de s'apercevoir de ça. Et en plus, ils s'aperçoivent en faisant de la radio qu'ils ont des questions à poser. Et ils s'aperçoivent qu'ils peuvent articuler un discours. Et ils s'aperçoivent que, pour un chômeur par exemple, aller poser des questions à un patron d'entreprise, c'est pas la même chose que de passer un entretien d'embauche. À lui poser des questions, c'est être maître du temps, c'est être maître du dialogue, c'est être maître du thème, c'est être maître de l'angle, c'est être maître des questions. Et c'est pas le patron qui pose des questions pour embaucher un type ou une fille, mais c'est cette personne qui fait de la radio qui va lui poser des questions. Et là, ça inverse les rôles. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire de la radio un outil d'insertion professionnelle.
Donc, l'avantage, si je reprends vos mots, c'est que à l'inverse d'une réinsertion socio-professionnelle manutentionnaire, c'est que là, on est, comment on pourrait dire ça, en pleine lumière. C'est ça, cet avantage que nous donne la radio ?
C'est exactement ça. On fait appel, nous, à l'histoire, aux voix et aux personnalités de nos salariés en insertion. Les ateliers chantiers d'insertion, en général, sont des dispositifs qui font appel aux muscles des personnes. Quasiment tous les ateliers chantiers d'insertion font appel aux muscles. C'est des ateliers chantiers d'insertion qui font du maraîchage, du jardinage, du tri de déchets, de la peinture, du BTP, de la couture, etc. etc. Nous, on a décidé de mobiliser les voix, les histoires, les personnes, les personnages, les personnalités de nos salariés en insertion. Et c'est ça qui fonctionne. Et donc ce dispositif est ultra intéressant. Et en plus, faire une émission de radio, créer un programme radio, quel qu'il soit, que ce soit en direct ou enregistré, ça requiert de multiples compétences. Il faut chercher de l'information. Il faut savoir décrocher son téléphone pour inviter des gens. Il faut écrire des mails. Il faut utiliser l'informatique. Il faut utiliser des outils informatiques qui peuvent être des logiciels de montage. Il faut utiliser un enregistreur comme celui qu'on a sous les yeux. Il faut savoir brancher des micros. Il faut savoir déplacer du matériel. Et donc, c'est pas juste de la peinture où on passe le rouleau. On connaît, il y a plein de façons de faire de la peinture. Il y a de multiples pinceaux, de multiples rouleaux, mais la radio requiert énormément de compétences et en plus on travaille en équipe et donc ça resocialise les gens.
Pour ceux qui seraient intéressés justement d'avoir une réinsertion socio-professionnelle dans la radio, qu'est-ce que vous leur direz sur les plus grands défis qui les attendent ? À quoi ils doivent-ils se préparer ? Qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre à faire ?
De multiples tâches, comme on l'a dit, écrire, coordonner, téléphoner, maîtriser l'outil informatique, enregistrer, poser des questions, post-produire, répondre à des critères de qualité, parce qu'il faut que le son soit bon, il faut que le mixage soit bon, il faut que le montage soit bon. Donc, y a tout un tas de défis, mais... Créer une émission de radio, c'est super drôle, c'est très très ludique. Le son est une matière plastique qu'on peut modeler de plein de façons. Quand on fait une émission de radio, faut produire, il ne faut pas trop se poser de questions. Et finalement, ils apprennent à faire plein de choses et nos salariés en insertion apprennent à faire plein de trucs sans se rendre compte que c'est compliqué. Parce que on fait et parce que en fait on s'amuse beaucoup à Making Waves.
Vous avez éveillé des passions, des dons que des personnes ne connaissaient pas chez eux.
Ouais. Tout d'un coup, c'est aussi une culture la radio. Il y a une culture radiophonique, c'est un art la radio. Et donc écouter des émissions de radio, tout d'un coup, c'est aussi bien artistique que éditorial. Donc il y a plein de, on apprend plein de choses en écoutant la radio. Je ne sais pas si on a éveillé des vocations, des passions, mais en tout cas, on a ouvert un champ culturel d'information à pas mal de monde. Et il y en a quand même qui sont assez tentés par le métier de la radio. Notre but n'est pas, dans notre atelier chanté d'insertion, notre but n'est pas de former des gens pour devenir des professionnels de la radio, mais d'utiliser les compétences que requiert la radio qui peuvent être utilisées dans d'autres domaines. Par exemple, parler en public. Si on veut être restaurateur, parler en public, c'est pas mal de savoir parler à ses clients au resto. Quelqu'un qui veut être coach, on a eu quelqu'un qui voulait être coach dans nos équipes, savoir parler au micro aussi, c'est important. Mais juste maîtriser l'outil informatique. Quelqu'un qui veut être hôte d'accueil ou hôtesse d'accueil, maîtriser l'outil informatique et savoir préparer une émission et utiliser les outils bureautiques, c'est quand même intéressant pour le futur métier que cette personne veut faire. Des vocations, on en a peut-être ouvertes. On verra par la suite. Pour l'instant, on n'a que 9 mois d'existence. Donc, mesurer la profondeur d'une vocation après 9 mois, il nous faudra un petit peu plus de temps pour mesurer ça.
Making Waves, donc association, organisation non gouvernementale, si vous préférez, représentée ici par Hervé Marchon et qui était donc également au festival Longueur d'onde de la radio et de l'écoute cet hiver à Brest. Enfin, la radio, le son, c'est un art. Parmi les personnes qui ont largement exploré la création sonore à la radio, il y a Thomas Baumgartner, qui est un ancien producteur à Radio France notamment, et là il a créé Wave Audio. Jean Causeur l'a interviewé sur la place du son et des podcasts dans notre société. Mais d'abord, évidemment, il nous dit un mot de son parcours très riche.
À mon parcours, je fais du son et on va dire du numérique un peu en parallèle ou en même temps depuis un petit moment. J'ai commencé à Arte Radio, au tout début d'Arte Radio, et j'ai eu un compagnonnage pendant plusieurs années avec Arte Radio. J'ai travaillé à France Culture pendant 10 ans, où je me suis occupé à la fois d'une émission sur les nouveaux médias qui s'appelait Place de la Toile. Au début, les deux premières saisons de Place de la Toile, j'ai fait une émission de création quotidienne qui s'appelait Les Passagers de la Nuit, après une émission qui s'appelait L'Atelier du Son, qui est devenue Supersonic, qui était sur, on va dire, le son créatif hors la radio. Donc j'avais envie de faire entrer dans la radio le son créatif, qui existait ailleurs, le boom dont on parle là au festival existait depuis un petit moment. Et puis, voilà. Et je suis parti à Radio Nova ensuite. Donc j'ai été le rédacteur en chef pendant 2 ans et j'ai fondé Wave Audio, donc qui était un studio de production sonore, wave.audio, qui C'est aussi l'adresse du site, c'est pratique. Et donc, on travaille, on fait des productions indépendantes de podcasts, mais l'essentiel de notre travail, c'est de fabriquer du podcast pour ceux qui ne savent pas en faire, on va dire, qui peuvent être des médias, qui peuvent être des marques, comme on dit, mais qui peuvent être aussi des institutions culturelles, des musées. On va dans cette direction-là et donc on produit du reportage, du documentaire, de la chronique, de l'émission parlée, mais aussi de la fiction. Voilà nos directions.
Alors, vous parlez beaucoup de son et que pensez-vous justement quelle place a le son aujourd'hui dans la vie de la majorité des Français selon vous ?
C'est drôle parce que le son, quand on en parle en dehors d'endroits comme ici, souvent, la première chose, alors c'est pas les gens qui en parlent comme ça, mais c'est peut-être plutôt certaines institutions, certains politiques au niveau local, c'est une nuisance. Donc c'est vrai que là, j'ai encore vu l'autre jour une affiche pour dire que le bruit en ville, l'entente entre voisins, etc., ça passait par la question du son. Être bien dans sa vie, c'est ne pas subir le son. Et malheureusement, souvent, je crois qu'il y a un observatoire du bruit. Enfin, c'est quand on en parle de manière un peu générale, c'est ça qui vient. Alors qu'en fait, le son, c'est pas que du bruit, et c'est pas que de la nuisance, et que la question de comment vivre au milieu du son, comment bien écouter, comment bien profiter du son, c'est une forme d'écologie aussi, mais c'est une forme d'éducation qu'on a peu. Et il y a des gens qui y pensent, il y a des gens qui en parlent, et heureusement. Et voilà, donc c'est la place du son doit être aussi celle d'un plaisir ou celle d'une découverte. Et heureusement, donc dans des festivals comme ici, ou avec les gens qu'on rencontre, des choses qu'on entend, on se rend compte que c'est important aussi, cette dimension de plaisir, cette dimension de découverte. Et il se trouve que, après, il y a toute la question de la radio et du podcast. Donc il y a toute une génération, même plusieurs générations, mais depuis, on va dire, 15 ans, il y a vraiment plein de gens qui se saisissent des pouvoirs du son, qui en font des choses, qui en font pas forcément de la parole d'ailleurs, hein, mais qui articulent des choses avec le son. Et ça, c'est un vrai mouvement de fond, depuis 15-20 ans en fait, dont le podcast est une expression, une forme d'aboutissement, enfin une poursuite en tout cas, pour se saisir de cette manière-là du son comme une matière créative et partageable.
Et cet engouement qu'il y a justement depuis ces 15 dernières années, dont le podcast qui est de plus en plus central à cette histoire de son, qu'est-ce que vous en pensez justement que cet essor, de cet engouement, est-ce qu'on devrait encore l'inciter à aller plus loin ?
Mais elle va aller plus loin, parce qu'en fait, l'essor du podcast, ça signifie des gens qui découvrent un langage, qui découvrent le pouvoir de diffusion, par exemple, de ce que c'est qu'un podcast, qui est très différent de la diffusion hertzienne. C'est d'emblée, c'est mondial, par exemple. Alors, comme disait l'autre, et l'autre c'est David Dufresne, il a écrit, je ne sais plus dans quel livre il a écrit ça, je pense que c'est dans Tarnac, Magasin Général, mais il dit « tout est fanzine ». Et pour moi c'est éclairant comme phrase, « tout est fanzine ». Ça veut dire que les audiences massives de nos aînés, quand on faisait un journal dans les années 60, et qu'il avait un peu de succès, y en avait plein qui tiraient à plus de 100 000 exemplaires. Quand on faisait de la radio dans les années 60, on parlait à des millions de personnes, voire à des dizaines de millions de personnes en France. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc les audiences se diluent, mais les thématiques peuvent être plus pointues. La manière de parler de certaines choses peut être plus différente. Donc tout est fanzine, ça veut dire que tout est à petit format, à petit budget, mais avec un potentiel d'écho énorme. Et donc pour moi, donc une fois qu'on dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces fanzines vont toucher un maximum de gens, ces fanzines sonores, ces productions indépendantes. Et c'est autant de graines semées pour une invention ultérieure qu'on ignore. On ne sait pas ce que ça va devenir. Mais on parle d'essor. En fait, ce n'est qu'une poursuite. Encore une fois, on récolte aujourd'hui les graines de ce qui a été semé depuis 15-20 ans par l'atelier de création sonore radiophonique de Bruxelles, par Arte Radio, par certaines choses à France Culture, par une pratique amateur, par des ateliers dans les écoles, par le Clémy, par des choses comme ça. Et donc... On fabrique, on produit, parce qu'on doit le faire, on le fait au présent, et en même temps ça essaime, comme on dit. Donc on verra plus tard ce que ça donne, mais on n'est qu'un élément dans une continuité.
Et nous aussi, Radio Évasion, nous sommes un élément dans cette continuité. Voilà, c'était le florilège du festival Longueur d'onde de la radio et de l'écoute, dont la 19e édition, donc la prochaine, aura lieu à Brest, bien sûr, du 1er au 5 février 2023. Et vous retrouverez bien sûr les interviews, mais aussi les références des organismes, associations, entreprises citées dans cette émission sur le site de Radio Évasion.